Bonjour et bienvenue dans l'émission Ma commune est utile. Donc, je me représente Gérard Queval. Je vais animer cette émission avec à mes côtés Alain Castan, président de l'Association des maires ruraux de la Dordogne, et Brigitte Cabirol, maire de Saint-Barthélemy. Bonjour à tous, donc Gérard, je suis en compagnie aujourd'hui avec Alain. Nous avons malheureusement Brigitte absente pour des raisons
personnelles. Brigitte a pris quelques jours de vacances avec ses enfants, malgré le Covid, mais les voit deux un par un, donc voilà. Je vais me retrouver tout seul aujourd'hui, mais ça va faire l'affaire, on a beaucoup de choses à dire. Gérard, donc bonjour à tout le monde.
Donc, je voudrais qu'on fasse un petit peu le point de notre année d'émission. Qu'est-ce que tu penses?
C'est une excellente initiative. Nous sommes en fin d'année, donc on va pas faire le bilan moral, mais on va dire un petit peu les grands axes, parce que l'association cette année a pris vraiment son chemin le plus prolifique et le plus positif. Nous avons obtenu beaucoup de choses, et c'est vrai que particulièrement pour les communes, où les indemnités ont été revalorisées, l'urbanisme a été modifié, beaucoup de choses ont évolué, et surtout aujourd'hui on est écouté par le gouvernement, et nous pour la Dordogne par le préfet, puisque nous avons intégré la commission départementale des communes intercommunales, donc des communautés intercommunales, donc c'est quand même très important aujourd'hui. Un autre point positif à mettre en notre action en Dordogne, c'est le rapprochement avec l'Union des maires. Alors bien sûr, nous ne sommes pas toujours sur la même longueur d'onde, mais c'est vrai que quelque part, le nouveau président, Bruno Lamonnerie, a bien compris qu'on doit plutôt travailler ensemble et se serrer les coudes plutôt que de s'opposer. Et donc c'est une très très bonne chose, et je lui ai d'entrée proposé de réunir nos bureaux, de façon à pouvoir avoir des points communs sur des choses essentielles. Et bon, quand les choses nous séparent, puisque l'Union des maires, c'est aussi les intercommunalités. Donc voilà, au niveau national aussi, ça a beaucoup évolué. Il vient d'y avoir donc l'Assemblée générale avec le passage d'un président à l'autre. Moi, je voudrais rendre un grand hommage à Vanik Berberian, qui a fait un travail magnifique, qui a su regrouper en plus tous les départements. Et donc, ses actions, c'est lui qui est à l'origine des cahiers de doléances, c'est lui qui est à l'origine de l'agenda rural. Donc ça, c'est très, très important. Et puis, bien sûr, la passation des pouvoirs s'est faite dans la plus grande transparence. Et l'arrivée de Michel Fournier, qui était son bras droit, est arrivé à convaincre tout le monde qu'on restait dans la même dynamique et qu'on allait travailler de la même façon.
Sur un certain nombre de points, est-ce que tu crois que ce qui s'est passé avec les gilets jaunes plus le Covid a fait que le gouvernement, les élus qui sont au-dessus, ont pris en considération l'importance aujourd'hui des petits maires, qui ont été vraiment la cheville ouvrière sur les cahiers de doléances avec les gilets jaunes, mais aussi par rapport au Covid. Donc on a montré aussi l'utilité des petites communes.
Alors je préfère ça, Gérard, petite commune, mais pas petit maire. Chaque maire a son importance, et il n'y a pas de petit maire, il n'y a pas de grand maire, il n'y a que des maires. Donc oui, des petites communes. Alors c'est évident que les gilets jaunes, bon, ça a été l'origine du mécontentement des Français, mais pourquoi on a pris une telle importance? Parce qu'on a derrière eu la super idée, ça vient de Vanik Berberian, notre président, de créer d'ouvrir les mairies pour faire ces fameux cahiers de doléances, qui a obligé le président de la République à entamer son grand déplacement dans tout le pays pour écouter les Français. Et ça, c'est grâce à nous. Et c'est grâce à nous. Et ils ont bien compris aujourd'hui que les communes rurales sont vitales, et que ce sont elles qui ont le plus de proximité avec les administrés. Et aujourd'hui, je peux l'affirmer, les gens ont bien compris que la commune, désormais, elle existe, et elle existera toujours, même s'il y a des communes nouvelles qui se créent. Mais ça, c'est pareil, je vais en dire deux mots.
On y reviendra tout à l'heure.
On y reviendra tout à l'heure sur les communes nouvelles. Mais bon, vraiment, ça joue un grand rôle. Et puis aussi, le travail de fond qu'on a fait dans les départements. Tous mes collègues de tous les départements ont fait un travail de fond énorme. On a eu beaucoup d'adhésions cette année. Et donc ça, c'est un plus. Et je crois que les maires et les élus ont compris l'importance d'avoir des élus de proximité.
Donc l'importance d'avoir une association départementale. Et donc aujourd'hui, on a de jeunes maires nouvellement élus qui ont décidé de rejoindre l'association.
Ça, c'est un plus. Mmh. C'est un plus. On a beaucoup de nouveaux jeunes maires et particulièrement des femmes. Les femmes, il y a une augmentation du nombre de maires femmes. Et ça aussi, c'est excellent. Et d'ailleurs, je vais l'annoncer, c'est un scoop. Le prochain congrès qui se passera dans le mois de septembre l'année prochaine, si le Covid n'est plus là, se passera dans Lyon, dans un département rural aussi. Et le thème de cette année, ça sera la femme engagée. Donc tu vois un petit peu toute l'importance que l'on met pour que la femme puisse s'engager. Et la femme s'est déjà engagée, mais il faut qu'elle aille plus loin.
Donc on voit aussi la nécessité de ces jeunes élus qui ont beaucoup de difficultés, parce qu'être maire aujourd'hui, c'est pas facile. Il y a plein de législations, la nécessité d'avoir une association dans le milieu rural qui puisse les aider et les conforter à défendre leurs concitoyens.
Ben oui, parce qu'une des forces de l'association, justement, c'est de faire de la formation. Et on a beaucoup de jeunes maires qui vont passer un week-end à Lyon de temps en temps pour se former sur plein de sujets comme le budget, comme la santé, comme l'économie, comme les écoles. Donc c'est très intéressant pour eux, ils en reviennent ravis, et c'est vrai qu'en plus c'est gratuit, ou si c'est payant, c'est la MRF qui aide. Mmh. Donc c'est vraiment intéressant.
Donc on va en profiter pour inciter nos auditeurs qui sont élus conseillers municipaux ou maires à nous rejoindre pour l'année 2021.
Eh bien aujourd'hui, on est au milieu du guet, c'est-à-dire que partie d'une vingtaine de communes, aujourd'hui on en a la moitié des communes de la Dordogne rurale. Donc il faut aller au-delà, mais je suis très confiant parce que c'est curieux, depuis que je me suis présenté avec Brigitte au sénatorial, nous avons fait un score tout à fait honorable, et les maires ont compris quand même l'importance qu'on jouait à travers les propos qu'on a pu tenir pendant la campagne. Et beaucoup, beaucoup nous rejoignent aujourd'hui, des maires de villes un peu plus importantes, comme Aimé, comme La Roche-Chalais, comme Le Bugue. Ce sont des communes intéressantes sur le nombre d'habitants, qui n'ont pas les mêmes problèmes ou les mêmes facilités ou difficultés des communes beaucoup plus rurales. Mais c'est intéressant parce que c'est un lien entre nous, et on peut discuter entre nous.
Donc là, on va peut-être revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur la question des communes nouvelles. Est-ce que tu peux dire un petit mot rapidement pour nos auditeurs, expliquer qu'est-ce que c'est d'avoir qu'une commune nouvelle?
Alors, une commune nouvelle, c'est une commune qui a décidé de... Ce sont plusieurs communes, ça peut être deux, mais ça peut être plusieurs communes, qui ont décidé de se rassembler et de créer ce qu'on appelle une commune nouvelle. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est le système de fusion des communes. Mais aujourd'hui, alors en Dordogne, on en a plusieurs. Je vais vous citer l'exemple de Sigoulès qui a fait la commune de Sigoulès et Flaujac. Donc la commune de Flaujac et la commune de Sigoulès ont fait une commune nouvelle. Mais il y en a qui sont beaucoup plus importantes, comme Brantôme, qui a 8 communes autour d'elle et qui a formé cette commune nouvelle, où ils sont passés à 3700 habitants. Donc voilà, il y a des pôles d'intérêt par rapport à ces communes nouvelles. Alors justement, je voulais en parler parce qu'on a eu un conseil d'administration hier soir par visioconférence, bien sûr. Et vous savez que dans le projet de Jacqueline Gourault sur la nouvelle loi 3D, même qui sera peut-être 4D, il y aura un quatrième D.
Tu peux préciser les 4D pour que
vous... Oh là là, je vais pas m'en rappeler. Il y a différenciation, il y a...
Déconcentration.
Décentralisation. Et puis le quatrième, on le devinera plus tard. Mais bon, dans cette nouvelle loi où nous participons énormément, la MRF, parce que le ministère nous fait confiance sur les problèmes, il devait y avoir dans cette loi l'obligation de passer par un référendum d'initiative de la commune, c'est-à-dire de la population. Nous allons nous battre, et nous allons nous battre pour que ça soit la population qui obligatoirement
décide,
mais au moins donne son avis. Et malheureusement, on vient d'apprendre que l'AMF était contre ce projet. Alors on peut comprendre parce qu'ils défendent les intercos, mais là aussi, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord et nous allons nous battre pour que ça devienne obligatoire. Exactement comme une autre chose qui est importante par rapport à toutes ces choses-là. Moi, je vais reparler un petit peu d'argent et de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la fameuse DETR. Mais nous avons demandé à Jean Castex, dans notre dernière intervention, c'est que dans DETR, il y a surtout le mot rural. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que nos préfets, ils privilégient plutôt les intercommunalités que les communes rurales. Donc il va falloir revenir à un peu plus de considération vis-à-vis des communes et que les projets soient financés et pas avec du saupoudrage, c'est-à-dire à 20-30%, mais que des communes qui ont un projet structurant pour la petite commune puissent avoir au moins jusqu'à 40-50%. C'est ce qui se passait dans le temps. Il faut qu'on revienne à des valeurs plus normales pour que les communes puissent après pouvoir fonctionner en fonction du projet qu'elles ont eu.
Donc là, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, donc c'est... L'association va se battre pour qu'il y ait un référendum d'initiative hors populaire.
Non, pour que ça soit inscrit dans la loi.
Dans la loi pour quand il y aura une fusion de communes.
Quand il y aura une proposition de commune nouvelle, ce que nous demandons, nous, c'est que ça passe systématiquement par un vote de la population. Alors, bien sûr, il faut garder son calme et c'est pas le vote qui fera la décision. Ça sera un appui pour la décision du conseil municipal. Mmh. Voilà. Donc après, le conseil municipal jugera en son âme et confiance. Mais tu penses bien que si la population... Il y a d'abord la représentativité de la population. S'il n'y a que 20% des gens qui viennent voter, ça restera marginal. Mais s'il y a minimum 40 à 50% de la population qui vient voter, là, c'est quelque chose d'important. Et il faudra tenir compte du résultat. Alors bien sûr, s'il y a un résultat à 80%, il ne sera pas le même effet qu'un résultat à 20% ou 30%. Mmh. Donc là, après, le conseil municipal prendra sa décision pérenne, mais en ayant consulté la population.
Oui, parce que c'est important que tous les arguments, dans un sens ou de l'autre, soient exposés, parce que des fois, on peut avoir un certain nombre de surprises, et c'est contre ça que certaines communes ont refusé à une époque de fusionner. Je prends le cas de Razac, où sa population s'est fortement mobilisée contre la fusion avec Chancelade, et puis il y avait 6 autres communes.
Bon, ça
devenait une grosse entité. Donc on comprend la position de la population qui peut voir un intérêt dans des fusions, mais parallèlement, il y a aussi des fois des destructions de services publics, comme les suppressions des bureaux de poste, certaines écoles.
Ben on le voit,
plein de choses qui peuvent.
On le voit avec ces fameuses maisons de services publics. Aujourd'hui, il y en a une qui marche sur 4. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas les personnels qu'il faut dedans, déjà, d'une part. D'abord, il faut rapatrier les gens dans les maisons de services publics, c'est-à-dire que la mobilité n'est pas encore là, le numérique n'est pas encore là. Donc il y a une grosse, grosse difficulté à faire fonctionner ces maisons de services publics. Moi, je l'ai toujours dit, la première maison de services publics qui existe, c'est la mairie. Voilà.
Donc on va reprendre un petit peu le débat. Je pense qu'on est au moment de la pause musicale.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est instit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. qu'il est triste le patelin avec tous ces ronds-points qui font tourner les têtes.
Bon, ben, de l'en revenir à notre débat. Donc aujourd'hui, avec le Covid, l'Assemblée Générale des maires ruraux n'a pas pu avoir lieu en Dordogne. Donc je pense qu'on va prévoir peut-être une Assemblée Générale en début d'année, premier trimestre, pour qu'au moins ces jeunes maires puissent y participer et voir l'intérêt de...
Exactement. D'ailleurs, nous allons préparer donc cette nouvelle Assemblée Générale certainement dans le premier trimestre. Donc je pense qu'on se tournera encore toujours comme d'habitude vers une commune rurale. Pour dire aussi que nous venons de distribuer le troisième agenda... donc l'agenda 2021 tous les maires des communes rurales qui sont adhérentes à la MRF en association avec le SDE 24 puisque le SDE 24 est un des derniers syndicats ruraux et donc ça marche très bien, tout le monde est content. Vous y verrez dedans la plaquette sur la MRF 24 bien sûr avec mon édito. Et puis vous verrez le nouveau bureau qui s'est créé alors virtuellement, on le votera à cette Assemblée Générale, mais je dois remercier ceux qui sont partis, donc un grand bonjour à Frédéric Malvaux, l'ancien maire de Saint-Léon-sur-Vézère, à André Bonhomme, l'ancien maire de Cunège. Qui ne s'est pas présenté et pour les remplacer donc Jean-Michel Chabot, le maire adjoint de Saint-Pancras, donc bravo Jean-Michel et bonjour. Et puis deuxième, nous avons Guy Pieffer qui est le maire de d'Aiguran des Gardes-Deuil, donc encore un nouveau et puis je crois qu'il faut que je vérifie parce que entre les nouveaux et les anciens, c'est très difficile de toujours se rappeler de tout le monde parce qu'on est quand même relativement nombreux. Je crois que j'en ai oublié, mais bien sûr, mais il était déjà présent, c'est Maurice Chabrol, le maire du Bourdex, qui a remplacé Alain Laperroni. Donc voilà, le bureau est au complet. Les autres sont bien là, donc toujours en vice-présidente Brigitte Cabirol et Philippe Dussen. Notre trésorière, c'est Sylvie Colombelle, avec comme adjointe Anne Roger, la maire de Fanlac. Le secrétaire, eh bien, fidèle à son poste, malgré qu'il ne soit pas représenté, nous l'avons gardé parce qu'il représente sa commune, c'est Bernard Pichenot de la Roque-Gageac. Donc les trois membres que je viens de nommer. Et puis dans les membres, nous avons toujours notre ami Lucien Pomédio, le maire de Saint-Perdoux, Michel Thérault, le maire de Lembra. Et puis Gérard, toi qui es notre porte-parole un peu au niveau des radios. Donc voilà, le bureau va se recomposer comme ça. On va continuer à travailler. Alors après, au niveau, une fois qu'on aura fait l'Assemblée Générale, bien sûr, il va y avoir une Assemblée Générale au niveau national qui se passera à Lyon comme d'habitude. Elle se fera au mois de mars. Nous serons 3 ou 4 à y aller du bureau. Et puis le grand congrès que nous espérons cette année. Alors l'Assemblée Générale sera en avril, mais le congrès sera certainement au mois de mars. Il se fera dans Lyon, à côté d'Auxerre, dans une commune rurale. On n'a pas encore le nom, mais ça va venir. Où là, il y aura un grand rassemblement et on espère bien cette année à la venue du président de la République. Voilà un petit peu pour l'organisation. Dans les nouveautés aussi, je voulais en parler aux auditeurs. Ça, c'est très important parce que dans les débats, on a besoin de gens qui ont un peu d'expérience. Et c'est vrai que nous avons créé ce qu'on appelle un conseil scientifique qui sera présidé par Guy Clua, qui est un élu du Lot-et-Garonne, qui est l'ancien président du Lot-et-Garonne. C'est Guy qui va diriger cette commission scientifique, ce comité scientifique. Et dedans, il y a des noms d'anciens de l'association, mais il y a aussi des professeurs, il y a des agrégés, il y a des chefs d'entreprise, il y a beaucoup de monde qui travailleront sur des sujets bien, bien particuliers dont on a besoin pour l'association qui viendront faire les comptes rendus au conseil d'administration. Voilà un petit peu l'organisation.
Donc ce conseil scientifique sera sur plusieurs domaines.
Tous les domaines. Tous les domaines concernant la vie communale.
Ça ne sera pas simplement sur le Covid.
Non. Mais le Covid, on espère qu'il va disparaître avec le vaccin. On n'en est pas sûr. Mais c'est vrai que quelque part, aujourd'hui, on prend conscience qu'il faut vraiment se protéger, que les gestes barrières sont très importants. Nous, on est devant le micro, on est tous les deux. Et tu vois, on a le masque. Et il faut respecter ça. Parce que sinon, ça risque de s'aggraver. Donc, c'est ce qu'il faut éviter. Voilà.
Donc, on peut revenir, tu as un petit mot à dire par rapport à ça, aux auditeurs, par rapport au Covid, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est un petit peu dans une situation où les gens se posent plein de questions. Il y a une angoisse qui commence à naître sur le pays de voir peut-être une troisième vague arriver, de nouveau un confinement.
Alors, moi, sur le Covid, déjà, moi, je vais parler plutôt de la pré-vaccination. On a été invité, j'ai été invité par la préfecture, avec les membres de l'ARS, le Conseil de l'Ordre, la prévention, la sécurité, tous ces gens-là qui sont dans ce milieu-là, les responsables des infirmières, tous ces gens-là, on nous a expliqué comment allait se dérouler pour les EHPAD et pour le personnel soignant, comment allait se passer un petit peu cette vaccination. Bien sûr, elle n'est pas obligatoire. Et on se rend bien compte, moi, en étant sur le terrain, j'ai pris deux fois la parole pour leur dire, d'une part, que dans le personnel hospitalier, il y avait quand même quelque chose qu'ils avaient oublié, c'était ce qui s'était passé, le traumatisme de la vaccination sur l'hépatite, qui s'était très, très mal passé. Et ces souvenirs, c'est quand même... je pense que le personnel hospitalier ne l'a pas oublié, donc il faut faire beaucoup de pédagogie. Puisqu'à présent, on se rend compte que peu veulent se faire vacciner. Et chez les personnes âgées, le gros problème, ça va être de recenser un petit peu les personnes âgées entre les tuteurs et les personnes qui ont encore toute leur tête, de vraiment savoir lesquelles vont vouloir se vacciner. Et puis, bien sûr, l'obligation, c'est qu'il y ait un médecin référent. Il y a un médecin référent dans toutes les maisons de retraite. Alors, ce que j'ai appris aussi, c'est que malheureusement, sur 60 maisons de retraite dans le département, il y en a 20 qui n'ont pas de ce qu'on appelle un médecin coordinateur. Et ça, c'est grave, parce qu'il va falloir qu'il y en ait un. Donc, tout ça, c'est à l'étude. Mais le gros problème qui va se poser pour les maisons de retraite, c'est que ce vaccin, il arrive à moins 80 degrés. Et que quand il va arriver dans les pharmacies, là où les maisons de retraite sont desservies, ils vont avoir 3 jours pour faire la vaccination, pas plus. Donc vous imaginez un petit peu qu'il faut vraiment avoir une préparation méticuleuse et qu'il ne faut pas se tromper. Donc c'est pas encore réglé, mais je leur souhaite bon courage, parce que c'est vrai que les EHPAD ont beaucoup de travail à faire.
Oui, on sent, quand on voit ce qui s'est passé avec les masques et les tests, une petite angoisse par rapport à cette organisation qui est d'autant plus difficile, comme tu l'as signalé, avec le fait que ça arrive à moins 80, et si ce n'est pas gardé dans des bonnes conditions, on ne sait pas ce que va donner ce vaccin, et si c'est pour le mettre à la poubelle, ça va coûter très cher. Quoi.
Moi, j'essaie d'avoir du bon sens. Je me dis d'une part... S'il n'y avait pas des vaccins aujourd'hui, où c'est qu'on en serait ? Heureusement que Pasteur a démarré et que les autres ont suivi. Alors c'est vrai que les gens ont peur, parce que ce vaccin a été très trouvé très rapidement. Mais tout de même, j'ai entendu un médecin dire, et je pense qu'il a pas tort, qu'il vaut mieux être un peu malade par la vaccination que de mourir du Covid. Ça, c'est une évidence. Alors qu'il y ait des conséquences pour certains, et ça sera très marginal par rapport au vaccin, mais quelque part, je pense que le vaccin va quand même aider à éradiquer ce Covid. Et moi, je suis prêt à me faire vacciner. J'ai longtemps hésité, mais moi, je suis prêt. J'ai 67 ans, je suis prêt à me faire vacciner si ça doit sauver des vies et si ça doit sauver la mienne, par contre, aussi.
Oui, là. Après, bon, chacun... D'autant plus que toi, tu es un élu, tu es en contact avec beaucoup de personnes, tu es dans une situation où effectivement, tu as une position où ton choix va être déterminant.
Ben oui, il va être déterminant. Et si les élus donnent l'exemple, peut-être que ça incitera nos concitoyens à y aller. Donc, quelque part, moi, je fais confiance à la médecine. Je fais confiance à nos chercheurs. Je pense que quand même la France est en pointe par rapport à ça. Et donc, quelque part, il faut absolument qu'on arrive à éradiquer ce virus, parce que cette pandémie, il ne faudrait pas qu'elle dure 2, 3, 4 ans, parce que économiquement et puis humainement, ce serait une catastrophe. Donc voilà, il faut tout faire pour améliorer les choses. Et ça, je le dis bien volontiers aux jeunes. Faites attention. Je pense que le gouvernement a laissé... a ouvert un peu la porte pour les fêtes. Donc à Noël, ça sera des fêtes familiales. Et je pense que les gens ont bien compris qu'il ne faut pas être en groupe trop important. Et je pense que ça se passera bien pour Noël. Par contre, au premier de l'an, nous, on le sait, les maires. Mmh. Toutes les salles des fêtes, normalement, sont réservées pour les jeunes. Là, nous, toutes les salles des fêtes sont fermées. Il n'y aura pas une salle des fêtes qui soit louée, la mienne non plus. Donc, moi, j'invite les jeunes à se rassembler, mais pas plus de 6 et par groupe. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas revoir ce qu'on voit avec des fêtes à 300 personnes. Ça serait un danger immédiat pour le reste de la population.
Donc, tu dis en gros se protéger pour protéger les autres.
Exactement.
Donc, on a encore quelques minutes. Je voudrais qu'on parle un petit peu, parce que dans la situation du Covid, on a eu notre personnel dans les communes qui ont fait un énorme travail. Je pense qu'on pourrait peut-être dire un mot pour remercier et montrer tout le travail qu'ont fait tout ce personnel, des fois en risquant leur...
On va d'abord commencer par leur souhaiter de bonnes fêtes et puis une bonne année pour 2021. Ben, c'est vrai que nos personnels, que ce soit nos secrétaires de mairie ou nos personnels sur le terrain, ont fait un travail énorme, et pour le Covid et pour tout, parce qu'il faut se rappeler aussi qu'on a eu cette année d'énormes tempêtes, des coups de vent. Et c'est vrai que tous les personnels des communes ont été vraiment au charbon pour qui ont été beaucoup sollicités. Ils ont beaucoup travaillé, il faut les en remercier. Mais vous savez, je l'ai toujours dit, moi déjà, au niveau du secrétariat, c'est une secrétaire qui fait un bon maire, c'est pas le contraire. Mmh. Ça, c'est une évidence. Donc, moi, je fais un coucou à la mienne, déjà, et puis à toutes les autres, et puis leur dire bravo et continuer comme ça. On a vraiment besoin de vous et on a besoin aussi de nos personnels parce qu'ils font un travail remarquable.
Donc, je pense qu'il serait peut-être intéressant qu'en début d'année, je ne dis pas au mois de janvier, on puisse faire une émission avec une ou deux secrétaires de mairie qui viennent expliquer à nos auditeurs la complexité.
Très bonne idée, Gérard. Très bonne idée. On va le faire. D'accord, hein, moi, je suis entièrement d'accord. On va le faire. Et puis, une chose quand même, je voulais dire, et j'en suis très, très fier et très, très, très reconnaissant de RLP, j'ai du mal à le dire, c'est que ça y est, bien, on fait des petits. Aujourd'hui, on va partir, d'autres émissions, on va partir sur la radio de Ribérac.
Radio Liberté.
Voilà, Radio Liberté à Ribérac. Et donc, c'est un premier point. Et je suis sollicité aussi par Radio Bergerac, Radio 95 à Bergerac, pour aussi faire une émission avec les élus. Ça prouve quand même que les auditeurs nous écoutent. Et ce qu'il y a d'important, nous, ce qu'avait Brigitte, et ce qu'on a toujours fait, c'est de ne pas surtout avoir de langue de bois. Et quand on a quelque chose à dire, on le dit.
Et donc, j'en profite de l'occasion pour annoncer à nos auditeurs, mais ça, on le verra après le Covid, parce que dans la situation actuelle, c'est assez difficile. On va faire une nouvelle émission pour présenter une commune avec un événement qui aura lieu sur cette commune. Et ça sera important. Donc, on sollicitera un certain nombre de maires et d'associations à venir parler de leur commune et de leurs événements qui produiront.
Voilà.
On fera la publicité. Un petit mot avant, on a encore 2-3 minutes.
Le petit mot de la fin, pour moi, en ce qui me concerne, c'est d'abord de souhaiter une très bonne année à tous les maires, à tous les élus de la Dordogne, de souhaiter aussi, bien sûr, une très bonne année à tous les personnels, et puis, bien sûr, de souhaiter une très bonne année aux auditeurs des RLP. Voilà, c'est le mot de la fin pour moi.
À tous les auditeurs, donc on vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, de Noël et du Nouvel An. Et surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, Alain, prenez bien soin de vous et de vos proches.
Exactement.
Faites attention. Merci et à l'année prochaine.